plus rock de la bande FM.
Avec la voix que tu as, on dirait pas quand même. Hein, c'est un petit peu soft, un petit peu léger. Voilà, bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Quand même, on me répond. Voilà, au sommaire de cette émission, on va faire une séquence un peu spéciale que j'ai intitulée « Marc, Jean-Bernard, Hermance et les autres ». Vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. Et puis Jacques va nous parler d'un roman qu'il a beaucoup aimé. Et dans une deuxième partie, eh bien, on va continuer nos chroniques de romans noirs, polars et autres romans qui nous ont particulièrement intéressés.
Et même des nouvelles.
Et des nouvelles. Voilà.
Donc, des nouvelles après les informations.
Ah, en deuxième partie. Voilà, donc je vais donc commencer par vous parler de trois... Allez, ce que j'ai trouvé le mieux pour résumer ces trois objets littéraires. Et ces trois objets littéraires ont un point commun. Ils ont été en partie concoctés par l'écrivain Marc Villard. Ce sont trois concepts, trois formats différents. Bref, trois jolis objets littéraires, comme je l'ai déjà dit. Donc, pour le premier... Il s'est adjoint Hermance Trier, qui est une photographe. Donc, ce premier s'appelle « Scène de crime ». C'est aux éditions « Le bec en l'air ». Hermance Trier, donc, aux photos. Marc Villard, aux mots. Un vieux slogan, tout le monde s'en souvient, disait « Le poids des mots, le choc des photos ». Ici, c'est tout l'inverse. C'est fin, c'est intelligent, subtil. Et l'idée est plus qu'intéressante. Bien sûr, ce n'est pas une idée nouvelle de demander à un auteur des textes qui illustrent une photo ou une série de photos. Mais là, la contrainte, je dirais qu'elle est plus travaillée, et elle rentre de plein pied dans les champs du roman noir. En gros, deux photos d'Hermance Trier, un lieu, qui va donc être la scène de crime, d'où le titre de ce recueil, et la photo d'un objet, bien en évidence au milieu d'une feuille blanche. Et cette photo évoque l'arme du crime. N'attendez pas des Magnum 357 ou des Goutelas bien aiguisés. Non. Là, le crime ici ne s'avilit pas d'armes aussi banales. Non, il faut une tarentule, un bas de soie, la douceur traîtresse d'un oreiller. En maître du minimalisme, Marc Villard répond à ses sollicitations visuelles par 20 textes incisifs dégraissés à l'extrême. En gros, les photos de Hermance Trier suggèrent déjà par le cadre, l'angle de vue, les couleurs, des couleurs souvent glauques, de très beaux effets de matière sur les tirages d'ailleurs. Tout ça suggère une angoisse, une atmosphère oppressante. D'ailleurs, c'est là que l'on voit l'œil, le point de vue d'un vrai, ici d'une vraie photographe, c'est de transformer finalement un décor banal, un salon, un coin de nature, en une image qui sourd le drame. Et Marc Villard, très habilement, passe derrière le miroir, et en quelques lignes, plante, on peut même dire replante, un décor que l'on semble avoir déjà sous les yeux, mais dont il redéfinit les contours. L'écrivain, dans ses 20 textes, flirte avec tous les genres qui tournent autour du roman noir et du polar. On côtoiera des voyous, des braqueurs, mais aussi des paumés. Ces déclassés qu'il met souvent en scène, déclassés parce que hors classe, hors société, hors champ. Voilà, en gros, c'est un livre à garder à ses côtés, sur une table de nuit, au salon, pour picorer une histoire, pour revoir une photo, selon les heures du jour. Et si je vous en parle maintenant, en ce début décembre, comme d'ailleurs les deux autres ouvrages que l'on va évoquer ce soir, c'est parce que je trouve que c'est une très belle idée de cadeau. Alors, je vais même vous dire le prix. Donc, ce recueil, c'est 14,90 €. Et vous comblerez tous ceux qui aiment à feuilleter des livres, qui aime à découvrir des objets littéraires et des belles photos. Je vais donner un seul petit regret, une petite... C'est pas une critique, mais un petit regret. C'est un format petit qui, à mon avis, ne prend pas complètement justice et rend pas complètement, pleinement justice aux photos d'Hermance Trier.
Mais c'est pour maintenir un coût raisonnable.
Tout à fait, évidemment. Pour reproduire cette iconographie et avoir ce prix-là, c'est sûr que c'est un petit format. Mais vous pouvez avoir une séance de rattrapage, voire deux séances de rattrapage. Parce que d'abord, vous pouvez découvrir ces photos en plus grand sur le site d'Hermance Trier. Il suffit d'aller googler et de mettre hermance.trier.photographe et vous tomberez sur son blog et vous verrez les photos. Et puis, si vous avez un peu de chance, dans quelques villes ou dans quelques festivals de polar, eh bien, il y a une exposition avec les photos d'Hermance et les textes de Marc Villard en vis-à-vis. Donc, bon, peut-être regardez un petit peu sur l'agenda culturel de votre région. Vous pourrez aller avoir la chance de voir les originaux de ces photos.
Tu pourrais peut-être préciser l'éditeur ?
Mais je l'ai déjà dit, c'est Le Bec en l'air.
Et ben voilà.
Voilà, un éditeur moins connu, moins... voilà, dont le nom est moins familier de nos auditeurs, mais voilà. Je répète donc les éditions Le Bec en l'air. Et, comme je le disais, on va parler de trois objets littéraires. Donc, Marc Villard, il a dû être très occupé au printemps et à l'été, puisqu'en octobre, quelques jours après Scène de crime, sortait L'Alphabet du polar, avec son complice, je dirais presque de toujours, Jean-Bernard Puy, et de très belles illustrations de José Correa. C'est deux éditions Inuit, et j'annonce tout de suite la couleur, le prix, 25 €. Et franchement, pour ce bel objet, c'est donné. Encore une belle idée de cadeau de Noël. Non, non, ne me remerciez pas, c'est normal, c'est tout naturel. Le principe est tout simple.
Merci Corinne.
Ah, quand même. Mais ce n'est pas si simple que ça avec ces deux amis. 26 textes.
Comme les 26 lettres de l'alphabet.
Voilà, alphabet du polar. Comme les 26 lettres de l'alphabet. Mais évidemment, on pourrait penser, allez, alphabet du polar, abécédaire choisi, on va commencer par arme et puis on va finir par zigouiller. Hein, ça paraît logique. Ben non. Avec Jean-Bernard Puy et Marc Villard, on va contourner l'univers du roman noir. Et donc, les écrivains ont choisi de disserter, toujours pareil, hein, des courts formats, des nouvelles. On va commencer par amphétamine. Jusqu'à Zone. Alors bon, jusque-là, on voit poindre la noirceur.
Mais Daiquiri...
Voilà, mais beaucoup moins évident, Daiquiri, copropriétaire. Bah oui, ça peut être très noir, une réunion de copropriétaires. Vous avez Uchronie, je vous laisse aller chercher dans le dictionnaire ce que ça veut dire, hein, l'Uchronie. Ou alors encore Nibar. Bon, alors ça, bon, d'accord.
On
en trouve dans les polars. Voilà. Donc, Jacques, tu l'as lu aussi. Alors, c'est toujours pareil. C'est un peu comme Scène de crime. C'est pas un roman qu'on va prendre de la première à la dernière page.
Non. Ça se picore, un album pareil. Hein. Même pas forcément dans l'ordre, plutôt. Ou alors on fait tous les Puits, ou alors on fait tous les Villard, ou alors on fait les lettres qui nous plaisent. Voilà. En plus, c'est vrai qu'il y a deux superbes illustrations, dessins...
De José Correa,
des lavis, nous dit-on, c'est un peu des crayonnés, mais c'est vraiment...
C'est très très beau.
C'est en noir et blanc et c'est vraiment magnifique.
Voilà, les éditeurs, et je les en félicite et les en remercie, mais les éditeurs ont fait très très attention à la reprographie, on a un papier de belle qualité, on a de très très belles, une très belle iconographie, voilà, la couverture est à la fois sobre et superbe. Voilà, c'est vraiment, comme je le disais, un bel objet littéraire. Tu vas nous parler, Jacques. On va encore Marc Villard. Alors, à lui tout seul, comme un grand.
Il est tout seul. Donc, en fait, c'était une longue nouvelle, une novella, comme on dit, qui était parue il y a quelques années. Et malheureusement, l'éditeur avait assez rapidement disparu. Donc, les éditions Cohen et Cohen ont décidé de le rééditer. Donc, c'est un texte qui s'appelle « Sharon Tate ne verra pas Altamont ». Et qui donc est publié chez Audition Cohen & Cohen, comme je viens de le dire. Et donc, c'est en gros un texte dans lequel Marc Villard raconte la fin de l'utopie hippie, la fin du rêve pour lui.
L'utopie hippie,
voilà. Et donc, en fait, qui s'arrête pour lui le 6 décembre 69 au concert d'Altamont pendant le set des Rolling Stones. Sharon Tate, elle, vous le savez aussi, elle est morte quelques mois avant.
Les plus jeunes d'entre nous ne doivent pas connaître l'histoire de Sharon Tate.
Sharon Tate, qui était la femme de Roman Polanski, est morte quelques mois plus tôt, assassinée par la secte de Manson. Mais lui, Marc Villard, il fait remonter le début de ce déclin, en fait, au 2 juillet 69, à la mort plus ou moins accidentelle, on ne saura pas vraiment jamais, de Brian Jones, le guitariste des Stones, qui viennent d'ailleurs de perdre leur saxophoniste.
Beaucoup moins accidentellement, malheureusement.
Voilà, et donc, en fait, à travers cette novella, donc, il prend un personnage de fiction qui s'appelle Cheryl, qui va vivre plus ou moins tous ces événements Elle va avoir une courte vie, son héroïne, d'ailleurs héroïne n'est pas forcément un mauvais terme pour la qualifier, et pour qualifier cette époque-là. Voilà, et donc Marc Villard, quand il parle de musique, il sait y faire, et quand il raconte le concert des Stones, on n'a même pas besoin de mettre la musique, on entend les sons, on entend les riffs de Keith Richards, on entend les premiers chorus de guitare de Mick Taylor, le tout jeune Mick Taylor, qui s'est dit « mais qu'est-ce que je viens de faire là-dedans à cette époque-là, j'imagine ». Voilà, c'est un superbe texte, très court, mais qui reste bien dans la tête et qui sonne bien en musique.
Oui, et c'est vrai que Marc Villard, en grand amateur et de musique, et en grand, non pas amateur, mais spécialiste de littérature, met un rythme. Mais vraiment un rythme dans la narration.
Ah ben c'est ça, c'est l'écriture colle à la musique.
Il y a des riffs d'écriture,
voilà,
on peut
exactement.
Dire. Voilà. Et pour illustrer donc.
Eh ben, on va prendre des riffs de Keith Richards. Alors en fait, on va écouter le morceau juste après lequel tout s'est déclenché. Donc c'était quand il jouait Sympathy for the Devil, Altamont.
Quel accent anglais ?
Voilà.
Sympathy.
Sympathy for the Devil.
Un peu mieux, quand même.
Voilà. Bon, alors là, apparemment, c'est le son soi-disant original qu'ils ont remasterisé, mais le premier était tellement pourri que j'ai vraiment des doutes qu'ils aient pas pris des pistes ailleurs. Mais enfin, on va quand même l'écouter. Donc, Keith Richards, Mick Taylor, Mick Jagger et tous les autres à Altamont.
Yeah.
c'était donc Sympathy for the Devil.
Voilà, on a coupé le chorus de...
Donc c'est l'enregistrement dans le Tamante.
C'est censé l'être en tous les cas, mais bon. On a coupé le chorus de Mick Taylor. J'espère que les Hells Angels ne nous traiteront pas comme Meredith, parce que sinon, ça ne va pas être terrible pour nous. On va avoir du mal à finir l'émission.
Dans grâce, la nuit, elle a quand même beaucoup. On va pouvoir rentrer chez nous tranquille.
Donc, maintenant, je voudrais vous parler d'un texte qui est paru à la Série Noire, un court roman, petit format, mais vraiment un grand texte, une Série Noire bien noire, donc. C'est un texte de Sylvain Kermicki, qui s'appelle « Hors la nuit », et qui est paru, donc, à la Série Noire de Gallimard. Alors, c'est quand je disais un court texte, il fait 96 pages, mais c'est vraiment très, très fort. Alors, le narrateur mène une petite vie tranquille, plutôt morne et triste, sans passion, ni amour, ni vraiment rien en fait. Et il va doucement basculer dans une folie banale, puis dans une folie alcoolique, puis dans la folie totale. Abandonnant toute humanité, toute relation réelle à la réalité, il va descendre de plus en plus profond à l'intérieur de sa tête qui est vide de sens. Alors le phénomène déclenchant, peut-être, enfin sûrement, c'est le décès de sa mère, dès le début. Ça, on pense à Camus, parce que ça commence. Vos parents sont morts et vous êtes tout seul. Je ne sais pas si... Enfin, moi, je l'ai vu comme ça. Et là, sa vie qui se maintenait juste à niveau, avec un travail bête, qui est juste, tout juste rémunérateur, va se briser sur le chemin du retour. Et c'est dans le tunnel du métro qu'il rentre dans son propre tunnel à lui, en quelque sorte. Alors, il va y avoir un catalyseur à sa folie, un catalyseur bien involontaire, c'est sa belle-sœur. La femme de son frère, donc, elle est enceinte et elle voudrait lui donner, elle le voit bien qu'il n'est pas bien, elle voudrait lui donner un peu d'amour, un peu de tendresse, de l'amour de belle-sœur. Hein, il n'y a pas d'ambiguïté, du moins dans la tête de la belle-sœur. Lui, il ne sait pas trop et en fait, ben, il est complètement incapable de supporter cette...
Il a perdu toute empathie.
Il est complètement incapable de supporter ça. Alors la belle-sœur, elle voudrait réunir toute la famille, donc le frère, tout ça, dans une belle union pour le futur beau moment qui va arriver. Mais lui, il est incapable de supporter, de l'intégrer à sa propre non-vie. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on le voit. Il dit à un moment, la nuit vire de côté, l'aube vous débusque, vient l'heure où il faut, encore une fois, recommencer à vivre jusqu'au soir. Et la force et la particularité de ce roman, c'est la narration est au « vous ». Il dit tout le temps « vous », « vous ». Alors que « vous », en fait, ça donne comme un étrange détachement, alors que « vous », en fait, c'est lui. Mais du coup, « vous », c'est aussi l'auteur qui parle à son personnage, l'auteur qui parle de son personnage, ou c'est aussi peut-être parfois l'auteur qui parle au lecteur, ou encore le narrateur qui parle au lecteur, ou à l'auteur, c'est difficile. C'est un peu tout à la fois, en fait.
Et une voix intérieure.
Et une voix intérieure, surtout en fait en fonction de sa propre lecture. Il faut aussi évoquer l'écriture qui est vraiment très très sèche, en plus de la narration. Une écriture de phrases courtes sans aucun style emphatique. Voilà, c'est superbe, dérangeant, envahissant, et on s'accroche au vous pour ne pas tomber avec lui. C'est un premier roman, et c'est remarquable, en fait.
On va citer le titre avant de...
Hors la nuit, de Sylvain Kermicki, à la Série Noire.
À tout de suite.